matin, week-end, présenté par Alexis de la Fléchère de 6h à 9h, samedi et dimanche. Les premières informations de la journée, l'actualité économique et politique, la météo du week-end et les rendez-vous culture, immobilier, gastronomie, découverte de la rédaction d'Europe 1. Europe 1, matin, week-end, présenté par Alexis de la Fléchère, samedi et dimanche, de 6h à 9h, sur Europe 1, bien sûr, la radio libre.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe 1 Nuit Week-end. Maëlle Hassani.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accompagner en ce vendredi soir pour Europe 1 Nuit Week-end jusqu'à 22h30. À la une de votre journal, l'ultime tentative de Sébastien Lecornu pour doter la France d'un budget. Le Premier ministre dévoile ce soir une copie qu'il présente comme meilleure que le projet initial et capable de rassembler. Plusieurs demandes du PS et des LR sont approuvées afin d'éviter la censure. Les détails dès le début de ce journal. À la veille de la signature du traité du Mercosur, certains agriculteurs ne baissent pas les bras et compte bien se mobiliser jusqu'au bout pour faire plier Bruxelles. Après la Commission, les opposants au traité veulent faire pression sur le Parlement européen, vous l'entendrez. Dans ce journal également, les raisons des tergiversations de Donald Trump sur l'Iran. La Cour de cassation qui confirme la prescription du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti en 1986. Le tueur ne sera jamais jugé malgré les aveux. Et puis la détresse de Jean-Luc Crétier, le skieur champion olympique en 1998, s'est fait voler sa médaille à son domicile. Sébastien Lecornu présente la dernière offre du gouvernement en matière de budget. Le Premier ministre s'est exprimé en début de soirée sur le perron de Matignon pour dévoiler une nouvelle copie budgétaire qu'il décrit comme meilleure que le projet initial et susceptible de rassembler. Copie qu'il est contraint de faire passer en force via un 49-3 ou une ordonnance. Mais Maïalène Trémollet, les mesures mises sur la table pourraient permettre au gouvernement d'éviter la censure.
Oui, s'il défend un budget équilibré permettant de réduire le déficit à moins de 5%.
Ce budget va être différent. Il est meilleur et il est, je le crois, responsable.
Concrètement, la plupart des nouvelles mesures listées par le Premier ministre sont issues des réclamations du Parti Socialiste et des Républicains. Augmentation de la prime d'activité pour 3 millions de ménages, généralisation du repas universitaire à 1 euro pour les étudiants à la demande du PS, pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu à la demande des LR. Le Premier ministre espère ainsi obtenir la garantie d'un pacte de non-censure et accuse dans le même temps la France Insoumise et le Rassemblement National d'avoir provoqué la suspension des débats à l'Assemblée.
La France Insoumise et le Rassemblement National ont bloqué ce travail et ont méthodiquement rendu le texte incohérent et donc invotable.
Manière de rejeter sur les oppositions l'absence de vote à venir et le recours nécessaire au passage en force que Sébastien Lecornu voulait à tout prix éviter.
Je ressens une réelle déception, mais aussi de l'inquiétude d'avoir une partie de la classe politique préférer le blocage au travail.
Toujours est-il que le gouvernement n'a plus que deux options à ce stade, passer par l'article 49-3 ou par les ordonnances, fait inédit sous la Ve République. Le Premier ministre n'a pour l'instant pas précisé sur laquelle il comptait s'appuyer.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1 et ce soir, le Parti Socialiste se montre plutôt ouvert. Ce budget reste insuffisant, mais les avancées sont réelles, indique le PS sur ses réseaux sociaux. Réaction aussi de Marine Le Pen lors d'un meeting de campagne du candidat RN à la mairie de Marseille.
J'ai lu que M. Lecornu avait pris la parole. Calimero Lecornu. Il vient de découvrir quelque chose d'absolument terrible. L'opposition s'oppose. Oui, M. Lecornu, nous sommes contre votre budget. Parce que nous sommes contre les augmentations d'impôts. Parce que nous sommes contre l'aggravation du déficit. Parce que nous sommes contre l'absence totale d'économie sur le train de vie de l'État.
Voilà, Marine Le Pen et le Rassemblement National, sans surprise, sont contre le budget. Qu'en est-il des Républicains ? Eh bien, je poserai la question au vice-président des LR, Julien Aubert. Il sera l'invité politique d'Europe 1 Nuit Week-end à partir de 22h15. Dans ce potentiel budget, les engagements pris vis-à-vis des agriculteurs seront tenus, promet Sébastien Lecornu. Un secteur qui traverse une crise profonde et si les manifestations étaient plus rares aujourd'hui, la signature du traité du Mercosur par la Commission européenne demain pourrait bien raviver la colère, d'autant que les plus déterminés refusent de s'avouer vaincus et espèrent encore faire plier Bruxelles dans les prochains jours. Illustration à Lyon avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon.
Les agriculteurs ne se voilent pas la face. Cette signature demain avec les pays du Mercosur n'est pas une bonne nouvelle. Alors à quoi bon continuer le combat? Certains, comme Florent, arboriculteur et brasseur à Chabanières dans le Rhône, sont un peu résignés.
Je suis très pessimiste. Il y a certaines filières qui vont disparaître à l'allure où ça va. En fait, nous, on demande juste une seule chose, c'est bon, bah ok, on ouvre les portes avec le Mercosur, mais laissez-nous travailler comme les autres, au moins comme nos voisins européens, quoi.
Mais d'autres estiment que malgré la ratification du traité, rien n'est perdu, ou plutôt que tout est encore jouable. C'est le cas de Jean-Luc Perrin, éleveur de bovins et président de la FDSEA de la Loire.
On va se battre jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. Et notamment, il y a la saisie de la Cour de justice européenne, où c'est que les eurodéputés vont voter pour saisir la Cour de justice européenne ou contre. Et c'est pour ça que nous serons à Strasbourg mardi, pour mettre la pression sur les eurodéputés pour qu'ils votent pour saisir la Cour de justice. Ça ne va pas forcément anéantir le Mercosur, ça va l'arrêter pendant 18 mois. Donc on pourra continuer à se battre pour s'opposer à ce Mercosur. Comptez sur nous pour pas qu'on lâche.
L'heure est donc toujours au combat, mais également, et cela sera visible mardi, à l'Union des agriculteurs à travers l'Europe. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Le traité du Mercosur sera donc signé demain par la présidente de la Commission européenne. Et avant de se rendre au Paraguay, Ursula von der Leyen fait un passage au Brésil ce soir où elle salue le pouvoir du partenariat et de l'ouverture illustrée, selon elle, par cet accord de libre-échange controversé. Le président brésilien Lula salue un texte bénéfique pour le monde démocratique et pour le multilatéralisme. Donald Trump, prêt à user de tous les moyens pour s'emparer du Groenland. Le président américain menace d'imposer des droits de douane au pays qui s'opposerait à son plan de prise de contrôle du territoire arctique par les États-Unis. Et pour apporter un soutien au Danemark, des troupes européennes mènent des exercices sur place depuis hier. Des manœuvres militaires qui ont trait à la menace russe, assure ce soir le chef du commandement arctique danois qui invite même Washington à y participer. Les États-Unis de Donald Trump sur plusieurs fronts en ce début d'année, mais la possibilité d'une intervention en Iran pour venir en aide aux manifestants réprimés dans le sang semble s'éloigner. Signe d'apaisement, le président américain remercie publiquement ce soir le pouvoir iranien d'avoir renoncé à des centaines d'exécutions de manifestants ces dernières heures. La foule mobilisée depuis près de 3 semaines espérait pourtant obtenir une aide décisive de Washington. Wilfried de Villers.
Oui, en milieu de semaine encore, les frappes en Iran semblaient certaines. Les bases américaines de la région étaient en état d'alerte, prêtes à une intervention. Finalement, rien, pas de frappe et d'intenses tractations diplomatiques pour convaincre Donald Trump de temporiser. Il faut dire que l'Arabie Saoudite et le Qatar, alliés de Washington, redoutent en particulier une riposte militaire de l'Iran, comme le détaille le chercheur David Rigoulet-Rose.
Les autorités iraniennes ont fait valoir que le type de réplique qui serait envisagée serait illimité. Donc elle viserait évidemment des bases américaines, notamment celles au Qatar et ailleurs, mais potentiellement elle pourrait être élargie à ceux qui sont présentés comme les alliés des États-Unis dans la région.
Et pour cause, les pays du Golfe sont à portée de missiles iraniens capables de frapper leurs infrastructures stratégiques, centrales électriques, usines de désalinisation et surtout installations pétrolières. La crainte d'une crise du pétrole qui pourrait entraîner une paralysie du détroit d'Ormuz, passage stratégique entre Oman et l'Iran. Enfin, Israël aurait demandé à Donald Trump de temporiser pour se préparer à une éventuelle riposte iranienne.
Wilfried de Villers, et justement la répression orchestrée par le régime des Mollahs semble avoir mis un coup d'arrêt aux manifestations. Des milliers de morts et quelques 20 000 arrestations depuis le début de la révolte fin décembre selon les estimations des ONG. Mais l'homme dont la foule scande le nom aux quatre coins du pays, le prince Reza Pahlavi, l'assure depuis Washington, la République islamique va tomber. L'Iran peut être sur le point de procéder à un échange de prisonniers avec la France. Paris veut récupérer les deux otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Téhéran pourrait accéder à cette demande contre le retour de l'influenceuse iranienne Mahdieh Esfandari. Cette femme de 39 ans a été jugée pour apologie du terrorisme cette semaine. Le jugement sera rendu le 26 février. Le parquet réclame 4 ans de prison, dont un ferme. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on reparle de l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. La Cour de cassation confirme la prescription dans ce dossier. Résultat, le tueur qui était pourtant passé aux aveux il y a quelques années ne sera jamais jugé. A tout de suite.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter.
Ouais,
faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à Riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Europe 1 Nuit Weekend. Maëlle Hassani.
Une décision judiciaire de la plus haute importance rendue aujourd'hui par la Cour de cassation. Elle concerne l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Une jeune femme de 25 ans tuée en Isère en 1986 et dont le meurtrier est passé aux aveux 36 ans plus tard. Pourtant, Yves Chatin ne sera jamais jugé. La plus haute juridiction vient en effet de confirmer la prescription des faits. Les explications de William Molinier pour Europe 1.
Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, avait disparu le 22 mai 1986 alors qu'elle distribuait des journaux. Son voisin, Yves Chatin, avait un temps été suspecté, puis mis hors de cause. L'affaire était devenue un cold case, mais en 2022, rebondissement, Yves Chatin avoue avoir étranglé la victime avant de cacher son cadavre. Il est écroué, puis remis en liberté en raison de la prescription. Elle était de 10 ans au moment des faits, même si elle a depuis été rallongée à 20 ans, elle n'aurait pas couvert la durée pendant laquelle aucun acte d'enquête n'a été mené. La Cour de cassation a estimé que des investigations auraient pu être réalisées dès la disparition de la jeune femme, même en l'absence de cadavre. Il n'en a rien été, l'action publique est donc prescrite. Le mari de la victime a dénoncé une injustice violente. Un jour terrible pour la famille, a-t-il dit, ému aux larmes à la sortie de l'audience.
William Molinier, une décision qui va faire jurisprudence et qui risque de compliquer le travail du pôle cold case en place depuis 2021. Ce même pôle cold case qui lance aujourd'hui de nouvelles investigations concernant les parcours criminels de Dominique Pellicot et du tueur en série surnommé le Grélé. Des procédures destinées à identifier d'autres victimes potentielles des deux hommes. Le premier est déjà condamné à 20 ans de réclusion dans l'affaire des viols de Mazan et le second s'est suicidé en 2021, alors qu'il était convoqué par des enquêteurs. La commune de Chécy, en Seine-et-Marne, pourrait être condamnée à verser plus de 50 000 euros à un couple dont le maire refuse de célébrer le mariage. Raison de ce refus, le mari est un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français. Et c'est pour exprimer leur colère face à cette situation ubuesque que l'édile et son équipe ont présenté leur démission le mois dernier. Seule façon d'empêcher cette union, pourtant exigée par le parquet de Meaux, Mathieu Prior.
Mars 2025, une femme finlandaise et un homme algérien sous OQTF souhaitent se marier. Le maire Olivier Bourgeot refuse car il soupçonne un mariage arrangé. Le couple saisit la justice qui lui donne raison, mais l'édile reste sur sa position. Il présente sa démission quelques semaines plus tard. La préfecture la refuse. Mais nouveau rebondissement, l'avocate du couple saisit le tribunal de Meaux pour contraindre le maire à célébrer le mariage. La décision sera rendue le 27 janvier prochain. Le couple demande une astreinte financière de 1000 euros par jour. Ainsi, si le maire persiste à ne pas vouloir les marier jusqu'aux prochaines élections municipales, la commune devrait s'acquitter de 53 000 euros. Seule la suspicion d'un mariage blanc peut aujourd'hui permettre à la justice d'annuler l'union. Une proposition de loi pour interdire toute personne en situation irrégulière de se marier a été déposée. Le texte a été voté au Sénat, mais il n'est toujours pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Mathieu Prior, Emmanuel Macron préside jusqu'à lundi un nouveau cycle de négociations dans le dossier calédonien. Consultation lancée tout à l'heure à l'Élysée. Objectif, améliorer l'accord de Bougival signé par les indépendantistes et les loyalistes en juillet dernier. Mais depuis, le FLNKS a changé d'avis et boycotte les pourparlers. L'État souhaite avancer sans passage en force mais sans paralysie non plus, a déclaré le président de la République en début de soirée. L'excellence française est-elle menacée dans le domaine scientifique? C'est la crainte du directeur général de Safran, le géant de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Olivier André Andriès s'est montré particulièrement inquiet cette semaine du désintérêt et de la chute du niveau des jeunes Français en mathématiques. Écoutez, c'était lors d'une audition au Sénat.
Moi, ce qui m'inquiète, parce que je pense que c'est une bombe à retardement, c'est de voir le niveau progressivement baisser. Moi, ce que je regrette, c'est la décision qui a été prise, je la trouve toujours incompréhensible, de rendre les maths optionnelles pour le bac. L'impact qu'on a vu très rapidement de cette décision, c'est qu'on a vu une baisse du nombre de jeunes filles candidates sur les filières scientifiques et dans les écoles d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, on est entre 20 et 25% de femmes. Pourquoi les maths, c'est important? C'est pas parce que les gens vont faire des maths derrière. Les maths, c'est important parce que c'est ça qui forme l'esprit. C'est ça qui permet de comprendre, d'analyser.
L'alerte d'Olivier Andriès, le directeur général de Safran, lors d'une audition au Sénat cette semaine. Dans quelques jours, un homme va regarder les Jeux Olympiques d'hiver de Milan avec une certaine amertume. Jean-Luc Crétier, médaillé d'or sur la descente au JO de Nagano en 1998, va certainement se remémorer avec un pincement au cœur la joie procurée par cette distinction. L'ancien skieur s'est fait dérober sa médaille à son domicile en Italie l'été dernier. Il raconte au micro européen de Cyril de la Morinerie.
J'ai été obligé d'emmener ma femme se faire faire des points à un doigt et pendant 2 heures de temps où on était à l'hôpital, on a été cambriolé au niveau de notre maison. J'ai porté plainte auprès des carabiniers. Au bout de 3 mois, les carabiniers m'ont dit que l'affaire était close, ils n'arriveraient pas à la retrouver. Partout où je me déplaçais, elle était à mes côtés. Ça m'a fait très mal, quoi. Et la problématique liée à cette médaille, c'est que l'artisan qui les a fabriquées à l'époque, malheureusement, est décédé. Ça fait maintenant 3 ans que j'attends de pouvoir l'avoir en main et pouvoir la léguer à mon fils quand je serai plus de ce monde, malheureusement.
Jean-Luc Crétier, propos recueillis pour Europe 1 par Cyril de la Morinerie. La météo à 22h15 sur Europe 1, avec vous Marlène Duret. Une journée globalement grise demain et même assez perturbée près de la Méditerranée.
Effectivement, on ne verra pas beaucoup le soleil demain, sauf de l'Alsace aux Ardennes, en passant par le nord de la Lorraine, ce sera du soleil voilé. De belles éclaircies se dessineront le long des côtes de la Manche, de la Bretagne et le long des côtes de l'Atlantique Nord jusqu'au littoral charentais. Mais c'est vrai que partout ailleurs, les nuages seront bien nombreux, le ciel sera même souvent couvert, avec quelques pluies pour les régions méridionales jusqu'en Bourgogne l'après-midi. Des pluies qui s'annoncent copieuses d'ailleurs le matin entre le Var et les Cévennes, en passant par les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gare, jusque dans le département de l'Hérault. Et puis l'après-midi, il pleuvra en abondance, principalement dans le Languedoc. C'est donc un épisode méditerranéen qui va nous concerner jusqu'à lundi au moins, puisqu'ensuite les pluies vont se décaler vers le Roussillon et l'est de la Corse. Au niveau des températures, pas de grandes variations, sauf le matin, il fera un petit peu plus frais. Mais l'après-midi, comptez 5 degrés à Strasbourg, 8 à Chambéry, 9 à Belfort, à Ambérieu, 10 prévus à Bourges, Mont-de-Marsan, Toulouse, 11 degrés à Paris, à Montélimar, 12 à Auxerre, 13 au Mans, 15 à Béziers et jusqu'à 17 dans le sud de la Corse.
Merci beaucoup Marlène Duret. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, j'accueille l'invité politique d'Europe 1 du week-end, le vice-président des Républicains, Julien Aubert. Il va réagir évidemment aux annonces et au nouveau budget, nouvelle copie budgétaire présentée ce soir par Sébastien Lecornu. Qu'en pensent les Républicains? Vont-ils permettre au gouvernement d'éviter la censure? Je poserai la question dans un instant.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Europe 1. Europe 1.
La radio libre.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Europe 1 nuit week-end. Maël Hassani.
22h18, merci d'être à l'écoute d'Europe 1 ce vendredi soir et j'accueille l'invité politique d'Europe 1 du week-end, le vice-président des Républicains et président d'Oser la France, Julien Aubert. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci beaucoup de répondre à nos questions et de réagir à ces annonces du Premier ministre tout à l'heure sur le perron de Matignon. Un nouveau budget, en quelque sorte, une nouvelle copie qui est présentée par Sébastien Lecornu avec quelques mesures, la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, l'augmentation de 50 euros en moyenne de la prime d'activité, pas de nouveaux impôts sur les ménages, a priori, c'est en tout cas ce qui est annoncé par Matignon, une allocation sociale unique, ça c'est une mesure qui est chère aux Républicains, me semble-t-il. Alors après ces annonces, Julien Aubert, les Républicains peuvent-ils envisager de signer un accord de non-censure avec le gouvernement ?
Non, il n'y aura pas d'accord de non-censure. Maintenant, les Français, je dirais, sont épuisés par ce long trimestre de débats budgétaires sans fin, cette espèce de jour de la marmotte où on revit tous les jours le même budget et où vous avez les mêmes débats. Donc, il faut en sortir. Donc, en sortir, c'est prendre ses responsabilités. C'est un budget qui est largement écrit à 80 avec Olivier Faure. On a bien compris que l'idée, c'est de désactiver les socialistes. Sébastien Lecornu a à peu près tout lâché, ce qu'il pouvait lâcher. Il y a un côté budget magique. Maintenant, tout en étant hostile, je dirais, aux équilibres de ce budget, il serait irresponsable d'essayer de créer une crise politique par-dessus.
Donc vous annoncez que Les Républicains, que l'exécutif décide de passer par des ordonnances ou par un 49-3, Les Républicains ne voteront pas une motion de censure qui serait déposée à la suite, effectivement, de ce passage en force.
C'est une décision qui appartient évidemment au président de notre parti. Elle n'a pas été pour l'instant débattue, donc je ne peux pas vous dire que ce sera la position finale, d'autant qu'elle doit être vue...
Mais vous le souhaitez, députés. Parce que vous dites qu'on en a tous marre du débat budgétaire. Ah, bon, je ne peux pas vous contredire là-dessus. Simplement...
Je pense, si vous voulez, que les Français n'ont pas envie de passer 10 mois en période de débat budgétaire, qu'il y a des chefs d'entreprise qui se posent des questions quand même sur la fiscalité, qu'il y a beaucoup de choses qui sont gelées. Donc, tout ça est inconséquent parce que quand vous prenez la nouvelle copie de Sébastien Lecornu, il n'y a que des dépenses, en fait. Hein. C'est vraiment le budget magique avec des choses. Moi, je suis allé sur le fond, je suis plutôt content qu'on ne touche pas au barème de l'impôt sur le revenu, qu'on protège les ménages modestes. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir si vous arrivez à redresser la barre. Et évidemment, vous n'arriverez pas à la redresser comme ça. Bon, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, à un moment donné, il faut un budget pour ce pays. Il a décidé de le construire avec Olivier Faure, il l'assumera.
Alors, vous pointez vous-même, effectivement, ces bons points qui sont donnés au Parti Socialiste sur la plupart, effectivement, de cette copie. Et pourtant, vous nous dites que vous n'allez pas censurer derrière. Qu'en pensent notamment vos électeurs, qui sont des électeurs de droite, qui votent pour des députés, si on parle des députés LR, qui sont engagés à droite, qui sont sur une ligne libérale, et qui s'apprêtent à voter en conscience et en l'assumant, peut-être, parce que vous reconnaissez vous-même, un budget qui est largement inspiré par les socialistes. Cette contradiction-là, comment vous l'expliquez ?
Non, mais il y a une différence entre ne pas voter une censure et voter un budget.
Hein. Oui, enfin, vous allez permettre l'adoption de ce budget, plus précisément.
Entre les deux, vous avez l'abstention. Alors, tout d'abord, tout dépend, je dirais, des modalités juridiques qui vont être choisies par Sébastien Lecornu. Un 49-3, ce n'est pas une ordonnance.
Vous avez une préférence sur ce sujet ?
Le plus rapide, mais après, c'est à lui. Enfin, moi, je trouve un peu étrange, si vous voulez, sur le 49-3, parce que, quelque part, c'est l'outil de responsabilité. C'est un gouvernement qui dit, moi, je mets ma responsabilité sur la table. Et le fait qu'un Premier ministre arrive en disant, je refuse de présenter ma responsabilité devant un Parlement, moi, je trouve ça quasiment aussi contradictoire qu'un Parlement qui n'arrive pas à voter l'impôt. C'est là où on voit quand même qu'il y a un vrai trouble démocratique. Après, nos électeurs, ils sont aussi, pour répondre à votre question, ils sont aussi catastrophés par les dates du débat public. Ils ont bien compris que le Rassemblement national faisait n'importe quoi comme LFI. On l'a vu d'ailleurs avec les 5 milliards d'euros qui ont été coupés aux collectivités locales. Enfin, vous imaginez l'impact là aussi pour les gens qui font des budgets, pour les budgets d'investissement des collectivités. Tout ça n'est pas sérieux. Et donc, je crois, si vous voulez, que effectivement, il faut un budget pour ce pays, le moins mauvais possible. Mais de toute façon, compte tenu de la situation, c'est ensuite au gouvernement de choisir, on va dire, l'orientation qu'il souhaitait donner à ce budget. Il a choisi une orientation qui, effectivement, est celui de la dépense. Ce n'est pas ce que nous avons défendu, mais nous sommes maintenant en janvier. Donc il faut un budget.
Alors vous avez parlé du Rassemblement National et de la France Insoumise. Vous dites qu'ils ont fait n'importe quoi pendant ces débats. Vous êtes sur la même ligne là-dessus que Sébastien Lecornu qui accuse de saboteur LFI et le RN. On va écouter ce qu'a déclaré Marine Le Pen tout à l'heure. Elle a répondu justement à ces accusations.
J'ai lu que M. Lecornu avait pris la parole. Calimero Lecornu. Il vient de découvrir quelque chose d'absolument terrible. L'opposition s'oppose. Oui, monsieur Lecornu, nous sommes contre votre budget. Parce que nous sommes contre les augmentations d'impôts. Parce que nous sommes contre l'aggravation du déficit. Parce que nous sommes contre l'absence totale d'économie sur le train de vie de l'État.
Voilà, Julien Aubert, est-ce que finalement ce qu'ont fait les troupes du RN ces dernières semaines, ça n'est pas simplement s'opposer en tant qu'opposant ?
Oui, enfin, vous savez, il y avait un général français qui avait dit attaquons comme la lune. S'opposer, c'est savoir s'opposer intelligemment. Alors, qu'on s'oppose à des hausses d'impôts, tout ce qu'a fait le Rassemblement national n'est pas mauvais, même s'il y a eu des impôts qui ont été votés. Donc, je trouve ça un peu étrange qu'elle veuille s'opposer à des hausses d'impôts alors que les députés du Rassemblement national ont eux-mêmes alourdit la charge fiscale. Mais je visais plus particulièrement, vous voyez, ce qu'on a fait sur la décentralisation. Moi, je ne suis pas en faveur, si vous voulez, du millefeuille territorial. On a effectivement trop d'échelons, il y a trop d'élus, il y a trop de fonctionnaires publics territoriaux, on est d'accord. Mais ça n'est pas en coupant du jour au lendemain 5 milliards d'euros dans le budget et en provoquant en fait une crise budgétaire que vous allez résoudre ce problème du millefeuille. En réalité, vous défendez une vision politique et vous en tirez des conséquences budgétaires. Donc, c'était vraiment un coup à faire qui va mettre, je dirais, en danger un certain nombre de collectivités territoriales, à commencer par les intercommunalités, c'est 80% de la somme qui a été sucrée. Et donc, c'est pas une opposition intelligente, parce que effectivement, de toute façon, à un moment donné, comme il faut bien qu'elle fonctionne, on va revenir dessus. Mais entre temps, eh bien, vous aurez des investissements qui auront été gelés, et voilà, et le pays doit tourner. Il y a, au-delà du Parlement, il y a quand même un pays qui travaille, qui a besoin de signaux très clairs et de stabilité juridique et réglementaire sur l'avenir. Donc, il faut faire quand même attention et bien choisir les combats sur lesquels on s'oppose.
Alors, il n'empêche que le Rassemblement national apparaît peut-être à l'issue de cette séquence comme le parti avec la ligne la plus claire, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'imbroglio. On ne sait plus trop qui est dans le socle commun, qui ne l'est pas. Bon, le RN est clair. Est-ce que finalement le Rassemblement national, avec cette clarté et cette constance dans l'opposition au gouvernement, n'apparaît pas comme le grand vainqueur de tous ces débats budgétaires interminables?
Écoutez, moi, je me souviens quand même des hausses d'impôts qui ont été votées, donc j'ai pas trouvé que c'était aussi clair que ça. Alors après, effectivement, ils sont pas dans le socle commun, mais pour la bonne raison qu'ils n'ont pas d'alliés au Parlement. Donc, effectivement, étant rejetés par un certain nombre de partis, c'est assez facile, je dirais, de camper sur l'Aventin. Maintenant, c'est pas leur faute.
Et les Républicains, on sait plus vraiment s'ils sont dans le socle commun, c'est la grande question. Difficile à trancher, d'ailleurs.
C'est assez clair. On est sorti, si vous voulez, du gouvernement. Il y a des personnalités issues de nos rangs qui ont souhaité rester pour des raisons qui les regardent, et nous les avons suspendues. Voilà. Donc, nous ne sommes pas, si vous voulez, dans la majorité. Après, le réalisme politique veut que, alors que nous avons des élections municipales dans un mois et demi, que de toute façon, la campagne présidentielle va débuter quasiment dans quelques mois, avoir une nouvelle campagne législative avec un président de la République qui serait élu, un nouveau président de la République qui serait élu l'an prochain et qui ne pourrait pas dissoudre parce que la précédente dissolution est moins d'un an, enfin, ça n'est pas l'intérêt du pays. Je suis le premier à déplorer qu'Emmanuel Macron ait été réélu et même élu. J'aurais souhaité qu'il ne le fût pas. J'aurais souhaité qu'il tire les conséquences de son manque de légitimité. Mais la réalité politique, c'est qu'il s'est accroché et qu'il a nommé un Premier ministre qui fait tout pour rester. Bon, on peut le déplorer, mais de là à mettre le feu, si vous voulez, à tout l'édifice institutionnel parce qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont le président de la République fonctionne, c'est un mauvais service à rendre. C'est un peu d'ailleurs ce qu'avait fait Édouard Philippe en demandant la démission du président de la République, parce que en 2027, il y aura un nouveau président. J'espère que ce nouveau président, il sera les Républicains. Et même si Marine Le Pen devenait présidente de la République, eh bien, elle serait contente que derrière, elle ne retrouve pas une architecture totalement démolie par les oppositions. Donc il faut faire attention et je dirais bien faire comprendre aussi aux Français là où il faut combattre, là où il faut montrer son désaccord et en même temps là où il faut être responsable.
Julien Aubert, je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que vous êtes vice-président des Républicains et président d'Oser la France. On va parler du Mercosur tout de même, parce que le traité sera signé demain au Paraguay par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Bon, cette signature, elle était redoutée par les agriculteurs. Est-ce que, selon vous, c'est la fin de l'histoire? Est-ce que, une fois que Ursula von der Leyen aura signé au Paraguay, ce sera terminé, il n'y aura plus rien à faire pour s'opposer à ce Mercosur?
Vous savez, ce sont des questions de perception. Donald Trump a bien montré que vous aviez d'un côté le droit et la légalité, mais qu'à un moment donné, quand la force politique souhaite modifier l'état du droit, il peut le faire avec une certaine brutalité. Le problème de cette affaire de Mercosur, c'est que juridiquement, nous avons perdu. On a été mis en minorité, nous avons tenté de jouer suivant les règles de l'Union européenne. Le président de la République, qui ne savait pas très bien dans quelle équipe il jouait, a joué un rôle un peu trouble. Beaucoup d'acteurs ont attendu le dernier moment pour s'en émouvoir quand il était trop tard. La seule chose qui reste aujourd'hui, ce serait le rapport de force.
Donc vous appelez clairement Emmanuel Macron à montrer les muscles, à faire pression sur Bruxelles.
Moi, je pense que c'est trop tard, entre guillemets, politiquement, parce qu'une fois que c'est signé, c'est beaucoup plus dur. Mais en réalité, très en amont, il aurait fallu dire à Mme van der Leyen entre quatre yeux que si elle souhaitait aller dans cette direction, eh bien la France n'hésiterait pas à peser de tout son poids, à peut-être...
Qu'est-ce qu'il faudrait faire précisément ?
Oh, ben moi, j'aurais menacé de couper les financements publics à Bruxelles.
Comme le Rassemblement national, d'ailleurs.
Oui, j'aurais provoqué une crise institutionnelle. Mais il faut une crise institutionnelle, parce que en réalité, les élargissements successifs ont donné à l'Allemagne et aux pays qui partagent, convergent, je dirais, sur les intérêts politiques allemands, une majorité relativement stable. Et donc, on est régulièrement mis en minorité sur beaucoup de sujets. On est mis en minorité sur l'agriculture, on est mis en minorité sur l'énergie, on est mis en minorité sur les affaires de défense, même si ça ne relève pas de l'Union européenne, mais on voit bien que tout le monde achète américain. Donc, c'est comme si vous voulez un syndic. Hein. Si vous êtes dans un immeuble où vous perdez régulièrement tous les arbitrages et qu'on vous met les poubelles devant chez vous, que c'est vous qui payez la façade et que finalement vous n'avez aucun droit à ce syndic, à un moment donné, il faut se demander s'il ne faut pas déménager ou faire exploser le syndic. Mmh. Bien, dans le cas d'espèce, moi je ne souhaite pas l'explosion de l'Union européenne, mais pour qu'elle survive, il faut qu'à un moment donné, les intérêts de chacun soient respectés.
Et vous
France est la principale puissance agroalimentaire de l'Europe.
Et vous appelez la France à entamer ce rapport de force avec Bruxelles. Merci beaucoup Julien Aubert. Je rappelle que vous êtes vice-président des Républicains et président d'Oser la France. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 Nuit Weekend. Et à 22h30, on retrouve Valérie Darmon pour la Libre Antenne sur Europe 1. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Maëlle et bonsoir à tous. Et nous, on se retrouve à 23h pour les informations.
Absolument.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
Et bienvenue dans votre Libre Antenne sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs en direct. Nicolas est à mes côtés pour prendre vos appels au standard au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez aussi nous laisser des SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit, 75 centimes plus coût du SMS. Et vous pouvez aussi nous joindre sur la page Facebook de l'émission, ainsi que par mail à l'adresse libreantenne@europe1.fr. Tristan est à la réalisation et moi je suis à votre service, vous le savez. Ici, nous parlons de tout, mais surtout d'amour. Voici la citation de Montaigne. L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. La Libre Antenne de ce vendredi soir, c'est tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la Libre Antenne. Valérie Darmon.
Bonsoir Angèle.
Oui, bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous.
Oui, j'écoute assez souvent votre émission, que j'aime beaucoup.
Oui.
Là, je n'avais pas reconnu votre voix sur le smartphone, ça doit déformer un tout petit peu par rapport à la radio.
Ah, bon, bah écoutez, en tout cas c'est bien moi.
Et donc je suis assez fatiguée parce que j'ai eu des nuits agitées.
Oui.
Voilà.
Et vous savez pour quelle raison ?
Ah bah oui, bien sûr, c'est pour des raisons, c'est des raisons sentimentales, relationnelles.
Oui.
Et bon, il faut que la pression redescende et que je redorme un petit peu mieux. Et puis, normalement, ça doit aller mieux.
Qu'est-ce qui s'est passé, Angèle ?
Bon, en fait, j'ai revu donc un homme avec qui j'ai une liaison depuis 10 ans, un homme qui n'est pas libre. Bon, une relation, je dirais, entre guillemets, qui a été honnête, hein, pas de... Mais la personne met fin, en tout cas, à ce type de rencontre. Voilà.
Donc cet homme est marié, si je vous suis bien, je vous comprends bien. D'accord. Mm-hmm. Il est marié, vous le savez depuis le début.
Oui, je me suis bien sûr attachée au fur et à mesure à lui.
10 ans, il y a des raisons d'attachement au bout de 10 ans. Hein. Vous arriviez à vous voir régulièrement ?
Pas très souvent quand même, mais régulièrement.
Oui, c'est-à-dire pas très souvent.
pas plus d'une fois par mois.
Oui, donc une fois par mois pendant 10 ans.
Ouais.
Et vous arriviez à partager, je ne sais pas, un week-end, des soirées, non, une nuit.
Une soirée, enfin, 5 heures, on va dire.
Ah oui. Et donc, il met fin à la relation. Pour quelle raison? Parce que lui, c'est une double vie, hein, de toute façon, depuis 10 ans.
Ah oui, vous appelez ça une double vie quand même.
Bah, il a une relation suivie avec vous pendant 10 ans, alors qu'il est marié. Un petit peu quand même. Alors, évidemment, ce n'est pas une double vie au sens « je vis des choses avec quelqu'un d'autre et je partage », comme on a eu une fois un monsieur qui nous a appelé parce que justement, il voulait arrêter ses doubles vies. La moitié de la semaine avec l'une, et puis l'autre moitié avec son épouse, et puis le week-end, et puis il avait organisé toute sa vie comme ça. Mais ça fait quand même 10 ans qu'il est avec vous. Il n'a que vous ou il a d'autres femmes? D'autres maîtresses?
Non, je pense pas. Ça aurait été trop difficile pour lui. C'est une rencontre qui s'est faite un peu de l'ordre de la surprise. Hein.
C'est-à-dire? Vous voulez partager? Bah, comment vous êtes rencontrés? Comment l'histoire a pris?
On s'est rencontrés dans un lieu où il y avait de la musique, un concert. Moi, il y a des amis qui jouaient. Et dans les amis qui jouaient... Il connaissait cette personne.
Oui, donc c'est un ami d'un de vos amis.
J'avais des connaissances sur scène, et après, j'ai su qu'un de mes amis qui jouait connaissait certaines personnes et avait fait de la musique avec elle.
Oui, donc ami d'amis.
On peut dire ça. Exactement, oui.
Et donc, vous vous rencontrez? Et
on
ensuite
s'est mis à parler là sur place. Après, la soirée on continue à parler. Il me propose de prendre un café. Moi, c'était plus tellement dans mes habitudes de rentrer aussi tard, donc j'y accompagne, parce que bon, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter en aucune façon. Et en plus, moi, j'étais en séparation d'un autre lien cher, voilà, donc j'étais très triste, voilà.
Un lien qui était établi, l'homme que vous aviez avant, avec lequel vous étiez, n'était pas marié ou...
Je l'ai connu en fin de relation et après, il a vécu seul.
D'accord. Donc, il venait quasiment de se séparer lorsque vous l'avez connu. Enfin, il était en voie de séparation. Ensuite, il s'est séparé. Ouais. Ensuite, il a vécu, il a été avec vous. Mais vous n'avez jamais vécu ensemble, c'est ça?
Exactement. Ah oui, tout à fait.
D'accord. Et combien de temps avait duré cette précédente relation?
3-4 ans. Hein.
D'accord. Donc, vous êtes habitué à avoir des histoires longues, en tous les cas.
Comment?
Vous êtes habitué à avoir des histoires longues.
Ah bah oui, c'est plutôt du long.
Oui, oui, vous inscrivez dans le temps tout de même.
Ah,
et pourquoi avec cet homme précédent, on va revenir au dernier que vous avez revu après 10 ans, mais pourquoi ça s'était arrêté avec l'homme précédent?
Bah moi j'ai tout, les choses ne sont pas vraiment dites, mais en fait quand je l'ai revu, bon d'abord je lui en demandais trop, hein, parce que moi j'étais amoureuse, donc je lui en demandais. Lui il me disait qu'il n'était pas amoureux, que j'en demandais trop, voilà. Et puis, moi j'étais accro, forcément. Et en fait, quand je l'ai revu, on les découvre au fur et à mesure. Hein. Après, je me suis rendu compte que durant ce laps de temps, il avait donc quitté le lieu où il vivait depuis 10 ans avec cette femme et qu'il était parti vivre seul. Il avait quitté. Et donc, je pense que dans ce brouhaha-là, il a préféré me dire « En fait, c'est terminé entre nous, ça va plus, et rien », plutôt que de dire « Je suis dépassée par les événements ».
Oui, et plutôt que se sentir obligé d'officialiser un petit peu avec vous, alors qu'il était libre. Tant qu'il n'était pas libre, évidemment, ça lui faisait un paravent, ça lui faisait une forme d'alibi de ne pas s'engager avec vous. Mais une fois qu'il s'est rendu libre, évidemment, comme vous étiez amoureuse, vous lui auriez dit « Et pourquoi on ne se voit pas plus? Pourquoi on ne vit pas ensemble ?» etc. etc. C'est ça?
Disons que c'était plus... en fait, moi je dirais que il a arrêté la relation quand il était à bout avec l'autre relation. C'est-à-dire qu'il devait gérer le fait de partir de l'autre habitation, et de, donc d'une vie commune, entre guillemets, depuis 10 ans, commencer à trouver un logement petit correspondant à ses moyens ailleurs, et que c'est après avoir réussi à faire tout ça, ça je ne le savais pas, moi, que je l'ai recontacté, que j'ai su qu'il avait fait tout ça, en fait. Voilà.
Ah, vous vous êtes revus ensuite et vous avez pu parler?
Oui, oui.
Ah, ça, oui, c'est, ça, c'est important.
Toujours, mais il ne veut pas s'engager. On se voit toujours, mais il ne veut pas s'engager. On se voit très peu.
D'accord. Mais là, vous parlez du dernier ou vous parlez de l'avant-dernier?
Celui dont on vient parler, c'est le plus ancien.
Ah, le plus ancien, voilà, libres, c'est bien ça. Hein, c'est ça.
Il est libre, lui.
Voilà, lui, il est libre, d'accord.
Oui.
Et il ne veut toujours pas s'engager.
Ah non, toujours pas.
D'accord. Mais il n'est plus avec vous de manière officielle. D'où le fait que vous ayez rencontré l'ami d'amis, là, au concert, dans la foulée, oui. Hein, c'est ça.
Bah, c'est-à-dire que là, il avait rompu le lien.
Oui, oui, bien sûr, bien
donc,
sûr, bien sûr.
Même pas, moi, je l'ai recontacté parce que j'étais accro à lui. Et que j'ai pas menti à la personne que j'ai rencontrée au concert, parce que la personne était au courant.
Oui, oui. Et puis en plus,
je suis triste, je suis en séparation et c'est douloureux et voilà. Et je lui dis on échange de numéros parce que j'ai envie de discuter avec toi. Voilà, j'ai envie de continuer d'échanger avec toi. On échange de numéros, voilà. C'est tout.
Oui, puis de toute façon, il aurait été malvenu de dire quelque chose même, puisqu'il était marié lui en plus.
Bah, oui.
Donc il n'allait pas en plus vous dire « Ah ben non ». Donc effectivement... Alors revenons donc au second. Donc le second, oui, lui met fin parce que, selon vous, qu'est-ce qu'il vous a donné comme raison? C'est trop compliqué pour lui de gérer les deux histoires? Ou il se sent coupable? Ou qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a une prise de peur que ça se dévoile.
Ah, qu'on découvre le fait qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et pourquoi il a peur maintenant, alors que ça fait 10 ans?
Ben, c'est... J'espère que... Ben, ses enfants grandissent, il doit s'investir énormément dans leur avenir, il a eu des soucis de santé, il y a un de ses frères qui a divorcé, il ne sait pas comment il va réintégrer son travail après ce long arrêt. Il y a beaucoup de choses qui pèsent, quoi. Voilà.
Ah oui, il y a toute sa vie qui est en bouleversement.
Oui, c'est ça.
Et donc, ça met en perspective ses priorités.
C'est peut-être ça, oui. Je pourrais réécouter le podcast après ça?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, évidemment, oui, sur europe1.fr.
Oui, europe1.fr. Parce que je n'ai pas pu prendre de papier, ça m'intéresse ce que vous dites. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Mmh. C'est ça.
Oui, parce que là, évidemment, on voit les choses sous un nouveau jour. Lorsque soi-même, on est affaibli, c'est ce qui se passe avec son problème de santé. D'abord, il revient à la maison, puisqu'il ne travaille plus, hein, pour l'instant, forcément. Son frère, qui a été malade également. Les enfants...
Donc, qui a divorcé.
Et qui peut-être, on ne sait pas dans quelle étape psychologique est son frère.
Oui, tout à fait.
Et lequel des deux a quitté l'autre. Et les enfants, qui sont l'épouse qui a quitté. Voilà. Donc le frère doit être quand même dans un état de souffrance, puisqu'il n'a pas choisi la séparation. Donc, comme on se fait tous miroir, peut-être qu'il s'est projeté dans un futur où sa femme peut découvrir qu'il a une liaison, et qu'il se dit, même, je ne veux plus vivre tout ça, je veux peut-être que le moment est venu de mettre de l'ordre dans ma vie.
Ça.
Donc lui, la vraie question qu'il devrait se poser, c'est pourquoi il y a eu de la place pendant 10 ans pour une autre femme, qui est vous. Hein, ça veut dire que le couple n'est pas si solide, hein, il y a une faille quelque part, sinon on ne regarde pas ailleurs. Et vous, la question que vous pourriez peut-être vous poser, Angèle, c'est pourquoi vous êtes avec des hommes qui ne vous choisissent pas.
Oui, tout à fait. Ouais.
Vous avez quel âge?
67 ans.
67 ans, oui, bon. D'abord, c'est jeune, et puis quand même, on voit que vous plaisez.
Merci.
Hein, c'est pas le désert affectif non plus.
Ah, non, je sais pas, hein, j'ai pas été confrontée au désert affectif depuis longtemps. Hein.
Eh bien, justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas le désert affectif.
Ouais. Ouais.
Hein, 67 ans, vous avez été seule à un moment donné de votre vie?
J'ai toujours eu plus ou moins ce qu'on appelle des petits copains.
Voilà. Donc, vous voyez, vous n'avez pas vécu la solitude. Donc, vous voyez, il n'y a pas de désert affectif. Vous n'êtes pas en mal de masculin. Il n'est pas là le sujet. le sujet, c'est peut-être que... Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été installé, entre guillemets, dans une relation ? Vraiment installé ? Même si vous ne vivez pas avec.
Depuis 43 ans.
Alors voilà. Donc vous voyez, vous choisissez des hommes qui ne vous choisissent pas pleinement.
Oui.
Donc ça, c'est une vraie question que vous devriez vous poser. Au même titre que votre dernier compagnon est en train de s'interroger sur le reste de sa vie, il me semble. Est-ce que vous ne voudriez pas être pleinement choisi ? Est-ce que vous ne vous sentez pas suffisamment aimable pour être pleinement choisi ?
Ah, c'est possible. Hein.
C'est une question d'estime de soi, hein, c'est toujours pareil.
Tout à fait possible. Ouais.
Avec des sources souvent dans l'enfance et l'adolescence. Ça résonne lorsque je vous en parle ?
Oui, quand même, hein, oui.
Peut-être que c'est l'occasion, parce que vous savez... souvent, je le dis à l'antenne, hein, c'est, on a le choix de voir les choses qui nous arrivent comme des obstacles, comme des épreuves ou comme des étapes. Et peut-être que cette étape qui vous est proposée d'une nouvelle séparation, après 10 ans, hein, en plus ce sont des histoires qui sont pas totalement libres, hein, évidemment, on le voit, puisque vous ne vivez pas avec eux, vous ne partagez pas beaucoup avec eux, parce qu'ils ne vous donnent pas beaucoup. Peut-être que c'est la dernière histoire de cet ordre. Et qu'il est peut-être temps que vous notiez, par exemple, sur une feuille, quels sont les critères de votre vie avec un homme idéal. Parce que quand on sait ce qu'on cherche, c'est plus facile de le trouver. Et de se l'accorder.
Mais j'ai l'impression que je n'en ai aucune idée, en fait.
Mais oui, c'est bien pour ça que je vous incite à le faire, Angèle. C'est pour clarifier. Ouais. Clarifier ce que vous voulez. Parce que là, il semble que vous soyez plus choisi que vous ne choisissez, vous aussi. C'est-à-dire, pas dans toute l'histoire, puisqu'ils ne vous choisissent pas. Ils choisissent soit, pour l'un, la liberté, le célibat. Le second, ben, il choisit son épouse, ce qu'on peut entendre hein, aussi. Il y a toute une vie derrière. Mais peut-être qu'au départ, vous êtes plus dans le regard de l'homme que vous ne choisissez l'homme lui-même. Peut-être par peur de la solitude aussi, puisque vous n'avez jamais été seule.
Ben moi, je ressens vraiment profondément le besoin toujours d'être en contact avec un homme. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai vraiment besoin de ça pour mon équilibre. Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être un faux équilibre, mais...
Pour exister, vous voulez dire ?
Peut-être, oui, pour me sentir vraiment... oui, pour me sentir vivante.
Ouais. Oui, dans le regard des hommes.
Oui.
Pour exister, dans le regard des hommes. Alors, peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment bien, parce que vous ne l'avez pas expérimenté non plus, donc vous ne savez pas, bien avec vous-même.
C'est possible.
Vous savez, l'homme, ça doit être la cerise sur le gâteau. L'homme ou la femme, hein, d'ailleurs, hein, je parle dans les deux sens. C'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que quand il n'y a plus la cerise, il reste le gâteau. Mais si l'homme, c'est le gâteau, bah, après, vous vous retrouvez avec pas grand-chose. Hein, avec une petite cerise. Il vaut mieux dans l'autre sens. Et peut-être que vous n'avez pas été suffisamment regardé en vous, quelles sont vos ressources, si vous êtes vraiment autonome, notamment affectivement, je parle. Hein.
Ah, je ne me sens pas du tout autonome.
Eh oui, voilà. Pour ça que je vous donne toutes ces pistes.
Je ressens
ça, Oui, ça, d'accord, vous êtes indépendante, ok. Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Bah là, je ne travaille plus et je travaille dans le secteur social. Hein.
Oui, que vous avez des enfants ?
Non.
Donc,
pas d'enfants, pas de frères et sœurs, très seul quand même.
Oui, alors c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de chercher une moitié.
Oui.
Mais vous ne vous êtes jamais accordé un véritable couple.
Je ne me suis jamais accordé un véritable couple.
Bah oui, en tout cas ces dernières années. On parle des deux dernières années.
Ah oui,
voilà. 14 ans au moins là. J'ai compté.
J'ai une vision très négative en plus du couple. C'est quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose où je vois enfermement. Où je...
Vos parents s'entendaient comment, Angèle ?
Comme chien et chat. Ils s'adoraient, mais ils se tapaient dessus tout le temps. J'étais prise dans les. J'étais spectateur et. Participante depuis ma plus tendre enfance à leur bagarre permanente.
Donc victime aussi.
De,
hein.
De position pour l'un ou pour l'autre. Enfin, là, je sais que j'ai vécu un truc très toxique pour moi, surtout fille unique, hein, ça c'est sûr.
Ah oui, oui, oui. Conflit de loyauté majeur, là, visiblement.
Comment,
hein.
Comment?
Conflit de loyauté majeur.
Oui, c'est ça.
Si vous prenez à partie l'un comme l'autre et à témoin l'un comme l'autre, non seulement vous étiez dans un conflit de loyauté, mais vous étiez victime aussi de la situation en tant que petite fille.
Oui, tout à fait.
Et quand vous dites qu'il se tapait dessus, c'est une image ou c'est réel?
Ah non. Ah non, ça pouvait être le verbe haut, mais parfois ça en venait aux mains. Oui, sans produits toxiques, hein, sans alcool, hein, mais oh non, ils en venaient aux mains.
Ah oui.
C'est vraiment la bagarre, quoi.
Mais ils sont restés combien de temps ensemble, vos parents, jusqu'au bout?
Plusieurs, oui.
Combien d'années de mariage?
Oh, plus de 50 ans.
Oui. Oui, donc vous n'avez pas du tout de référence positive du couple et de l'union.
Ah non. Et de
l'union.
Ah non, pas du tout. Pas oui. du tout.
C'est pourquoi vous prenez des intermittents.
Oui.
Comme ça, vous avez... vous gardez votre autonomie, justement, ce que vous pensez être une autonomie. Mais, et finalement, vous ne vous engagez jamais non plus. Hein, donc, on ne peut pas demander aux hommes de s'engager avec vous si vous, vous ne vous engagez pas non plus.
Ben, c'est que l'engagement fait terriblement peur.
Et oui. Et d'ailleurs, le dernier, ben, c'était réglé. Il était déjà engagé ailleurs. Donc, vous étiez en zone de confort.
Oui.
Et en plus, vous ne viviez pas trop de choses partagées au quotidien, de fait. Ce qui vous permettait de rester dans le contrôle de votre attachement relatif.
Tout à fait.
Donc peut-être qu'il s'agit de sortir de votre zone de confort maintenant, mais en réfléchissant vraiment à ce que vous voulez, peut-être qu'il est temps de vous poser et de noter ce que vous voulez vraiment. Ça vous oblige à vous interroger sur vous, Angèle. Et peut-être que ce deuxième homme qui vous laisse après 10 ans, c'est peut-être le dernier homme qui vous laisse, parce que vous ne laisserez plus un homme vous laisser. Peut-être, il me semble.
Mais la blessure de cœur me fait très très peur, quoi. C'est fou, quoi.
Oui, mais vous voyez, vous ne pouvez pas faire l'économie de la souffrance, puisque là aussi vous souffrez.
Oui. Oui.
Donc finalement, autant souffrir pour une véritable histoire, pas pour du pis-aller. De toute façon, pour ne pas avoir les mêmes résultats, il faut changer quelque chose. Alors autant changer la manière de vivre l'histoire d'amour. Et évidemment le protagoniste que vous allez choisir, c'est-à-dire déjà la base, c'est choisir quelqu'un de libre. Et encore libre, je mets des guillemets, parce que parfois on se croit libre, on ne l'est pas. Hein. S'il y a des fantômes dans les placards, si on n'a pas été un tout petit peu travaillé sur soi, si on peut être limité, on peut être inapte hein, aussi, hein. Il y en a plein.
Je dirais paradoxalement, je suis très fidèle aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est que très fidèle dans le sens où ben, je suis restée. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu X aventure en dehors de ces deux hommes-là, quoi.
Oui, oui, oui. Vous êtes fidèle à la hauteur d'une fois par mois, quoi.
C'est ça.
Ah oui, vous êtes fidèle sans vous engager, c'est sûr. Vous avez trouvé une troisième voie qui tient à peu près sans vous mettre trop en danger. Mais aimer, c'est prendre un risque. Et là, vous le prenez tout de même d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel, puisque vous souffrez, sinon vous ne nous appelleriez pas ce soir. Mmh. Voilà, mais ça vaut peut-être le coup de le prendre vraiment. Puisque de toute façon, vous voyez, vous avez souffert avec l'avant-dernier, vous souffrez avec le dernier. Puis c'est quand même une souffrance narcissique hein, de ne pas être choisi.
Oui.
Non ?
Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire.
Bah, c'est-à-dire, est-ce que vous vous interrogez sur qu'est-ce que j'ai fait de mal, par exemple ? Ou j'aurais dû, par exemple ? Ou si j'avais su, bah, j'aurais fait autrement ? Par exemple, ou peut-être que je ne suis pas assez.
Voilà, oui, plutôt.
Ben oui, ça veut dire que, vous voyez, ça vous renvoie une image de « je ne suis pas à la hauteur, je ne compte pas suffisamment ». Donc ça veut dire que si je ne compte pas suffisamment, c'est que je ne vaux pas grand-chose, ou que je ne vaux pas assez. Tout à fait. Vous voyez ?
Oui, tout à fait.
Ben oui, ben ça nourrit pas l'estime de vous, ça.
Tout à fait.
Ça la détraque.
Mais ça fait longtemps que ça dure, hein, je pense.
Oui, mais il n'y a pas de fatalité, Angèle. Bien sûr que ça fait longtemps que ça dure, parce que vous répétez les schémas sous des biais différents, parce que même celui qui est libre, il reste libre dans son coin.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que l'avant-dernier, une fois qu'il s'est rendu libre, il aurait pu ne pas vous quitter. Vous auriez pu continuer de vous voir, peut-être petit à petit davantage, en faisant d'autres choses, en faisant des propositions de projets de vie, même des petits projets.
Pas,
j'ai bien compris. Ah non, mais je sais qu'il ne veut pas. C'est pour ça que je vous dis, mais même libre, il ne veut pas. Donc vous renouvelez le schéma de manière différente, mais c'est le même schéma qui se répète. Vous êtes seul chez vous, à attendre de le voir une fois de temps en temps. Bon, là, il ne veut plus, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que le second, il a une vraie bonne raison, il est marié.
Oui.
Mais l'avant-dernier, il aurait pu, il ne le fait pas. Donc, voyez, pour l'estime de vous, c'est pas bon. Tout ça, pardonnez-moi de vous dire ça comme ça, Angèle, je vous le dis avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Hein. Vraiment. Mais c'est une illusion. Donc, à un moment donné, osez vous faire passer en premier. Allez travailler ces douleurs d'enfant. Vous n'êtes pas vos parents. Bien sûr qu'en partie, on est toujours nos parents. On est 50-50, on hérite des transgénérationnels de chacun, on hérite de l'épigénétique, bon, tout ça. Une fois qu'on le travaille, une fois qu'on conscientise, on commence à le modifier, à le régler. Et ensuite, on peut être un petit peu plus soi. Ça vaut le coup.
Ouais, j'ai l'impression que j'ai un lourd fardeau quand même. Je n'arrive pas à me libérer.
Oui, mais est-ce que vous avez fait un travail thérapeutique? Je ne crois pas.
Ah oui.
Si okay, oui. Ah si. Et alors? Oui. Et alors? Ça n'a rien donné.
Bah, je sors. J'irai. Je. S'il n'y avait pas eu le travail thérapeutique, je ne sais pas si je m'en serais sortie carrément, quoi. Je veux dire.
Vous avez été déprimée à un moment donné?
Dès l'adolescence, oui, ça déconne.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence?
Un déménagement de mes parents. À nouveau, les pertes de points de repère. Que j'ai vécu à l'âge de 5 ans, que j'ai revécu à l'âge de 14 ans. Avec des abandons, enfin des sensations d'abandon que j'ai pas dû. Qui n'ont pas dû être bien colmatées ou compris, même s'il n'y a pas eu d'abandon. Perdre mes points de repère.
Ben oui, et ces abandons, vous les rejouez à chaque fois.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Parce que l'avant-dernier vous abandonne, le dernier vous abandonne, même s'ils ont leur raison, bien sûr. Hein, on ne les juge pas non plus. Et tout cela n'a rien à voir avec l'amour. Hein, c'est juste que c'est blessure contre blessure, vous voyez?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que le dernier, par exemple, évidemment que toutes ces blessures intérieures, elles se sont réveillées avec son frère qui divorce et qui subit le divorce, avec sa propre maladie, peut-être que les enfants vont quitter le nid, enfin des choses comme ça, vous voyez. Donc, bien sûr derrière, il y a aussi des blessures. Hein. De toute façon, quand on vit des trucs comme ça, un peu, on vient colmater les brèches. Prendre une maîtresse, c'est colmater les brèches. Hein. Mm-hmm. Sinon, on choisit. Vous voyez, on reste aligné, on est intègre en fait, vis-à-vis de son épouse et vis-à-vis de sa maîtresse. Même si la maîtresse et souvent le mari ou la femme, dans le cas de l'amant, sont informés de la situation. On reste un petit peu droit dans ses bottes. Mais ça demande une conscience, ça demande un vrai choix. Donc,
je crois que là, le vrai choix, il le fait. Hein.
Oui, il le fait parce que la vie, elle est venue le chercher. Hein. Elle est venue le réveiller.
Oui.
Comme vous, ça vous réveille aussi. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Donc vous aussi, vous êtes réveillé. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de ce réveil? C'est ça la vraie question. Oui. Restez avec nous, Angèle, s'il vous plaît, sur l'antenne d'Europa, parce qu'on va poursuivre notre entretien juste après le flash de Maëlle Hassani, s'il vous plaît. D'accord ? Et notez, chers amis, que chaque samedi, vous pouvez retrouver Laurie Choleva de 18h à 19h pour le magazine Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Eh bien, ce samedi, elle reçoit le réalisateur Olivier Assayas pour son film Le Mage du Kremlin, en salle mercredi prochain, avec Jude Law dans le rôle de Vladimir Poutine. Clap avec Laurie Choleva, c'est chaque samedi de 18h à 19h sur Europe 1, Europe 1, la radio libre.
Sur Europe 1.
Demain, de 10h à 11h,
aux côtés d'Eliott Deval,
Philippe Devilliers vous livre son regard sur l'actualité française.
De 17h à 18h,
visitez avec William Lémergie
la Ganterie Agnelle à Saint-Génien, dans la Haute-Vienne. Et dimanche, de 13h à 14h,
Émeric Pourbet décrypte l'actualité philosophique et culturelle dans Enquête d'esprit.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez.
Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant. Impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier.